Le journal Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous.
C'est l'une des informations de la nuit, la mort de Mary Higgins Clark, la reine du suspense, avait 92 ans. Les autres titres, Laurence.
Bien, le Royaume-Uni est sorti hier soir à minuit de l'Union européenne. Devant le Parlement à Londres, le mousseux anglais a coulé à flot au son de God Save the Queen et de Big Ben. Stop à la psychose du coronavirus. Les autorités sanitaires françaises mettent en garde contre le tout et n'importe quoi véhiculé par les réseaux sociaux. Les mesures de protection sont mises en place. Lancement ce matin également d'un numéro vert pour répondre à toutes les questions et également pour soulager le numéro 15, le 15. La politique avec le lancement hier soir au Havre de la campagne d'Édouard Philippe, une élection qui sera difficile, prévoit le Premier ministre, dans un contexte social tendu. Vos invités, Eric.
À 8h20, ce sera l'historien Benjamin Stora pour son livre Retour d'histoire, l'Algérie après Bouteflika. Ce livre vient de paraître chez Bayard.
France Inter. Elle était surnommée la reine du suspense. 56 romans, elle a fait frissonner la terre entière. Mary Higgins Clark est morte à Naples, en Floride, à l'âge de 92 ans. Annonce faite par son éditeur à Washington, la correspondance de Grégory Phillips.
Mary Higgins Clark laisse une œuvre de 51 romans qui, aux États-Unis, se sont vendus à plus de 100 millions d'exemplaires. Elle avait vu le jour dans le Bronx à New York en 1927, dans une famille modeste, et commence à écrire dès le plus jeune âge. Elle est un temps secrétaire, puis hôtesse de l'air, mais pour arrondir les fins de mois, Mary Higgins Clark écrit aussi un peu pour la radio américaine. Sa première nouvelle est publiée en 1956. Il lui faut attendre encore 15 ans pour que l'éditeur Simon & Schuster lui achète son premier roman, La Maison du Guet, à l'époque pour 3 500 $. Ce roman noir qui raconte l'assassinat de deux enfants par leur mère a depuis été réimprimé plus de 75 fois. Ensuite, les best-sellers vont s'enchaîner au rythme de quasiment un par an. La Nuit du Renard, Douce Nuit, sa fille Carol Higgins Clark suivra la même voie et elles écriront un livre à quatre mains au début des années 2000. Mary Higgins Clark est morte hier à l'âge de 92 ans, tranquillement, chez elle, en Floride.
Alors quel est le secret de Mary Higgins Clark pour de tels romans à succès planétaire? Elle confiait en novembre dernier à Augustin Trapenard sur France Inter dans Boomerang que sa culture irlandaise et sa bonne étoile y étaient pour beaucoup, mais pas seulement sa recette du suspense.
A good story has to engross
une bonne histoire doit captiver le lecteur. C'est très important. Il y a des livres dont on lit 10 pages et qu'on referme. C'est ce qu'il faut éviter quand on raconte une histoire. J'ai toujours aimé trouver l'accroche, le hameçon qui pousse le lecteur à continuer de lire, ne fût-ce qu'un autre paragraphe.
Mary Higgins Clark sur France Inter avec Augustin Trapenard en novembre dernier à l'occasion de la sortie de son dernier roman En secret.
Aujourd'hui, 1er février, voilà donc le Royaume-Uni qui entame sa nouvelle vie hors de l'Union européenne.
Après 3 ans et demi de déchirement, le Brexit voté par 52% des Britanniques en 2016 est désormais réalité depuis hier soir minuit. Les amarres sont larguées après 47 ans au quai européen. L'Union européenne a perdu pour la première fois un État membre et 66 millions d'habitants. Devant le Parlement à Londres, on s'est embrassé, on a chanté God Save the Queen pour savourer l'indépendance retrouvée. Trouvé, reportage d'Isabelle Labéry.
Yes!
I'm ecstatic today. Freedom from the European Union.
Ils sont libres et comme l'europhobe Nigel Farage le répète à la tribune, ils viennent de vivre le moment le plus important de l'histoire moderne de leur pays.
The greatest moment in the modern history of our great.
Et pourtant, ça ne colle pas. La cérémonie tient plus de la fête de village que de la célébration nationale. Les coups de cloche de Big Ben sont en réalité un enregistrement. Et pour couronner le tout, la pelouse s'est transformée en terrain de boue. Hélène se sent un peu nerveuse, car ce 31 janvier, dit-elle, ce n'est que le début de l'histoire. Tout reste à écrire dans la nouvelle relation qu'entretiendront Londres et Bruxelles, notamment en matière de commerce. Sur la place, deux amis trinquent au mousseux et se demandent quel pays européen demain osera emboîter le pas au Royaume-Uni. Londres, Isabelle Labéry, France Inter.
Et l'un des premiers sujets sensibles à régler sera celui de la pêche et l'accès aux eaux britanniques, pour lequel Londres entend bien faire monter les enchères, en particulier face aux inquiétudes des pêcheurs français et danois. Les autorités de Guernesey ont d'ailleurs temporairement suspendu, à compter de ce samedi, l'accès des navires de pêche français aux eaux de l'île anglo-normande. Il n'y aura pas d'audition de témoin au procès de Donald Trump. Le Sénat a voté contre, ce qui ouvre la voie, sans surprise, à un acquittement quasi certain du président des États-Unis la semaine prochaine. Les sénateurs républicains ont rejeté la proposition de l'accusation démocrate de convoquer des témoins tels que l'ancien conseiller national à la sécurité John Bolton, bien au fait des échanges entre Donald Trump et son homologue ukrainien qui ont provoqué l'ouverture de la procédure de destitution.
Retour en France, Laurence, on fait un point sur le coronavirus.
Avec ce numéro vert, le 0800 130 000, qui est lancé ce samedi en France, ce numéro sera ouvert de 9h à 19h tous les jours. Il s'agit de soulager les équipes qui gèrent les appels au 15 et qui sont actuellement très mobilisées pour répondre à des questions qui parfois ne sont pas d'ordre médical. D'autant que depuis l'arrivée à Carry-le-Rouet de nombreux Français en provenance de Chine, c'est un peu la panique dans cette commune près de Marseille. De nombreux habitants ont assisté à la réunion publique organisée par la préfecture, une réunion qui avait pour but de rassurer sur les risques de contagion. Il faut éviter de tomber dans la psychose, a martelé Philippe Demester de l'Agence régionale de santé.
Ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, dans un nombre de publications depuis deux jours, relève du délire pur et simple. Hein. Donc il était absolument indispensable de pouvoir donner des informations. On sait bien que la parole publique est toujours contestée et que des gens, malgré tout, diront que ce qu'on dit est faux. Mais bien sûr que on ne sait pas exactement comment se comporte ce virus, à quel point il est virulent, combien de personnes il peut contaminer, est-ce qu'il peut muter, etc. Un tas de questions sur lesquelles, parce qu'il est trop récent, on ne connaît pas. Mais en même temps, on sait que on sait prendre les mesures de protection. On considère que là, on prend des mesures de protection qui sont extrêmement importantes et donc qui devraient, en principe, à quasiment 100% de chance, protéger à la fois les personnes qui sont revenues de Chine, aussi bien que la population française, dont celle, bien sûr, de Carry-le-Rouet au premier chef.
Philippe Demester de l'Agence régionale de santé. La Chine, où le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi ce samedi à 259 morts, la Chine met en garde contre une panique inutile au moment où des pays d'Asie et les États-Unis commencent à fermer leurs frontières aux voyageurs en provenance de Chine.
Édouard Philippe a lancé sa campagne municipale hier soir au Havre.
Devant environ 400 personnes, certaines n'ont pas pu entrer dans la salle. Le Premier ministre a confirmé ce qu'il avait annoncé le matin même. Il fera campagne comme tête de liste, mais il cédera son fauteuil à l'actuel maire Jean-Baptiste Gatine, s'il est élu, pour poursuivre sa mission à Matignon. Un engagement qui lui vaut déjà des critiques des oppositions, en pleine mobilisation contre la réforme des retraites. Des manifestants se sont d'ailleurs fait entendre à l'extérieur de la salle, Simon Le Baron.
Les forces de l'ordre avaient eu beau boucler les abords du meeting, cela n'a pas empêché le son des sirènes et des pétards de parvenir jusqu'à l'intérieur de la salle.
Mes chers amis, vous l'avez sûrement entendu, il y a un peu de bruit à l'extérieur. Je vous recommande que pour moins entendre ce qui se passe dehors, on fasse encore plus de bruit à l'intérieur. Allez !
Voilà qui donne le ton de la campagne. Elle sera politiquement difficile, reconnaît Édouard Philippe.
Certains voudront faire de cette élection un test national. Certains essaieront peut-être de tendre le débat. Donc bien sûr, ce sera une élection difficile. Et nous l'avons entendu toute la soirée.
Les oppositions critiquent déjà ce chef du gouvernement en campagne, en pleine contestation sociale, et la pratique très ancien monde qui consiste à laisser sa place, s'il est élu, au maire actuel, pour mieux la reprendre une fois sa mission terminée à Matignon. Lui répond qu'être maire du Havre sera sa seule ambition.
J'ai connu des premiers ministres qui avaient d'autres ambitions politiques. Pas moi.
Quant aux fans d'Édouard Philippe, ils ne trouvent évidemment rien à redire.
Ça me dérange absolument pas. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a la chance d'avoir un Premier ministre qui travaille pour le Havre et en même temps pour le pays. Quoi demander de plus ?
À un mois et demi du premier tour des municipales, le Premier ministre candidat n'a en revanche rien dévoilé de son programme pour le Havre.
Simon Le Baron, les traditionnelles hausses du 1er février. Aujourd'hui, le taux de rémunération du livret A est officiellement abaissé à 0,5%, soit son plus faible niveau depuis sa création. Pour les ménages, les tarifs de l'électricité augmentent, plus 2,4% à compter de ce 1er février. Le passage au péage vous coûtera également plus cher, avec des tarifs là aussi revus à la hausse, plus 0,85% en moyenne. Il y a tout de même de bonnes nouvelles pour les Français qui se chauffent au gaz. Les tarifs réglementés appliqués par Engie baissent de plus de 3% ce mois-ci.
C'était le journal de Laurence Thomas.